Michel Foucault au micro de la télévision canadienne en 1971. Alors, le son est dégueulasse, mais ce qu'il dit est vraiment bien.
À quoi servent actuellement les intellectuels dans les grandes transformations qui sont déjà commencées?
Je pense que leur rôle est à la fois mené, et puis il a tout de même une certaine importance. Il me semble que un des caractères du processus auquel nous assistons actuellement est celui-ci. Il ne s'agit aucunement de s'emparer du pouvoir violemment par une sorte de coup d'État à la Blanqui. Il ne s'agit pas non plus de l'acquérir sagement et bourgeoisement dans le parlementarisme comme le souhaitent les communistes. Il s'agit pour l'instant, de permettre une prise de pouvoir en commençant par la cassure, la rupture de toutes les connexions par lesquelles le pouvoir est actuellement assuré. Tout ce système de communication qui fait que le pouvoir, qui est détenu en réalité par le grand capital, s'impose finalement à la masse des gens. Toutes ces communications, elles sont en grande partie entre les mains de la petite bourgeoisie. Le rôle que la petite bourgeoisie s'est vue confier depuis le XVIIIe siècle par la grande bourgeoisie capitaliste, ça a été précisément d'être le relais et l'instrument de transmission de ce pouvoir capitaliste. Eh bien, puisque la petite bourgeoisie est là, à ces relais de transmission du pouvoir, le rôle que le petit bourgeois peut jouer, le rôle que l'intellectuel petit bourgeois peut jouer dans l'université, à la radio, à la télévision, etc., c'est précisément d'empêcher l'exercice de ce pouvoir, de le brouiller, de casser de rompre les connexions, de produire,
si vous voulez, de saboter l'État.
Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est ce que vous, les intellectuels français, vous faites actuellement?
Je
par exemple, au Collège de France, qui occupait un poste de prestige, qui avait été nommé là par des autorités gouvernementales.
Ah, j'étais élu.
Ah, vous avez été élu par vos confrères?
Oui, on est élu par ses confrères.
Mais subventionné par l'État?
On est subventionné par l'État.
Et l'État vous donne l'entière liberté de dire ce que vous nous dites actuellement?
Eh bien là, alors vous posez un problème qui est en effet important. Vous dites, l'État vous paie, et voilà que vous revendiquez le droit de saboter l'État. Mais quand vous employez l'État dans ces deux phrases, je ne pense pas que ce soit exactement dans le même sens. Quand je dis saboter l'État, c'est bien en effet rendre possible, permettre la prise de pouvoir par les masses. Mais quand vous me dites l'État me paie, quel est donc cet État qui me paie? C'est-à-dire, quelle est donc cette institution qui me donne cet argent? Sinon précisément, celle qui produit la richesse.
Micro ouvert.
Bon, ce soir, nous avons la chance d'accueillir le photojournaliste Martin Bardilaï. Martin, que certains d'entre vous avaient déjà pu rencontrer en 2018, lorsqu'il était venu nous présenter son premier livre à l'UPJB, qui s'intitule « Refusnik ». Dans son deuxième livre, nous refusons dire non à l'armée en Israël, qui était coéditée par Amnesty International. Martin prolonge son travail. Et donc, si on prend le premier et le deuxième livre, il a pu rassembler 60 témoignages. Dans son deuxième livre, il est retourné interviewer des personnes qu'il avait déjà rencontrées en 2017. Il en a interviewé de nouvelles. Et ces interviews se sont passées en 2023 et 2024, donc après le 7 octobre 2023. Donc, à travers ses portraits, Martin dresse un portrait de la société israélienne à travers la voix de ses dissidents, ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné, trouvent la force de dire non à ce qui représente le socle identitaire de la société israélienne, l'armée. Leur courage se paye cher. Ils sont victimes d'ostracisme, de menaces et parfois sont sanctionnés par la prison. Mais ces voix, bien trop rares, parlent de résistance, de désobéissance et de dignité. Ce soir, avec nous, Karine Thibault posera son regard sur les droits humains et l'objection de conscience. Elle nous aidera à comprendre, à éclairer un peu ce statut. Et Maya Lehrmann, israélienne vivant en Belgique, nous aidera à décrypter la société israélienne d'aujourd'hui. Et pour rendre la conversation plus chaleureuse, nous vous proposons qu'on se tutoie.
Merci Sharon pour la petite introduction. Donc, moi c'est Sacha et ma collègue Sharon, on fait tous les deux partie de l'Union des progressistes juifs de Belgique, de l'UPJB, et on est très content de pouvoir modérer aujourd'hui cet événement. Alors je vais quand même vous dire un tout petit mot sur l'UPJB. L'UPJB, c'est une association bruxelloise qui se trouve ici au 61 rue de la Victoire, donc juste à côté. C'est une association qui est née dans la clandestinité pendant la guerre et qui porte encore aujourd'hui cet héritage de résistance. Lutte contre le fascisme, contre le racisme, pour la justice sociale. C'est une association diasporiste qui se distingue par sa position non sioniste et qui défend une vision universaliste et solidaire. Mais c'est aussi un espace culturel et intergénérationnel. Débats, conférences, toutes sortes d'activités, mémoire vivante de la Shoah et de la résistance, mais aussi des engagements dans les luttes sociales d'aujourd'hui. Alors l'UPJB aujourd'hui est très heureuse de pouvoir collaborer avec Amnesty International qui parraine le livre de Martin par ailleurs et avec le Centre culturel Jacques Franck qui nous accueille ce soir. La soirée, juste une petite info pour vous, la soirée est filmée, donc certaines personnes nous suivent peut-être déjà en direct sur Zoom et la vidéo sera rendue accessible après par Amnesty, donc vous pourrez y retourner si ça vous a plu. Pour ouvrir la discussion, on va commencer par une courte projection vidéo avant de dialoguer avec nos invités, avec vous, pendant plus ou moins une heure et demie. Donc voilà, bonne vision du petit film et on se retrouve juste après.
Ces citoyens qui ont répondu à l'appel doivent par la suite consacrer un mois par an à l'armée, voire plus, selon les besoins. Les Palestiniens citoyens d'Israël, qui représentent 20% de la population, et la plupart des Juifs à Redim, qui se consacrent à l'étude religieuse, sont eux exemptés. Comme l'écrit Eyal Sivan, le service militaire est perçu comme un rite de passage incontournable, une preuve de loyauté envers la patrie. Pourtant, un certain nombre d'Israéliennes et d'Israéliens refusent de s'incorporer ou de faire leurs réserves. Selon les cas, ils peuvent passer plusieurs mois en prison militaire. Depuis le 7 octobre, celles et ceux qui refusent subissent plus que jamais l'ostracisme.
I was with my best friend who is Palestinian that we grew up together and she looked at the envelope and I looked at the envelope and she looked at me and I looked at her and she was like, do you know what you're going to do? I don't think I answered, but she said, do you know how difficult your life is going to be in this country if you don't go to the army? And at that moment when she told me this, I remember, I was 16. In that moment, when I realized that my Palestinian friend knows the depth of how much it's going to be difficult for me not to join the army, I knew that I cannot go to the army, because if we want to change things and if we want to like build an alternative to each other, then the depth of how we sacrifice for each other has to be mutual. And if she knows that deep how hard it is going to be for me, then I have to do the practical things in my life, in my choice as an Israeli, to do things differently.
My name is Itamar Greenberg. I am 18 years old. All of the time I'm in the West Bank, in the protective presence. I'm afraid, but it's not, I don't care about it, because we have to do it.
The idea for you to go there is to not to let settlers...
Yes, important thing is to take pictures and videos, yeah. To show, and if they are doing like hurting or something, as we can show it to police and they will do nothing, of course. The settlers took, I think, 150 ships of someone. And he go to the police station to report it, and they arrested him. They decided that he was the thief. we go to there to release him. We have to pay money.
So he was released?
Yes, after 12 hours, and he didn't get food. This is the face of the occupation. It's very crazy. After I will refuse, everyone will hate me. Now they hate me too, but they don't know it. They don't know they hate me.
So I don't remember a time in my life where I really thought I would serve in the army. I am very lucky to grow up in a family where serving in the army wasn't an obvious thing. In most families in Israel, it's very obvious that you will enlist. It's not even a choice, and definitely not a political choice. It's just, it's very obvious. It's just what you do. There is no solution here where one people just go away, where all Israelis go away, or where all Palestinians go away. This is not a solution. It will never be. No, there are millions of Palestinians and millions of Israelis, and no one is going anywhere, and no one has anywhere to go, and this has been my home since I was born, and a lot of people are like that. And I think that the right thing to do is to stay, because my voice is real here, and it's important, to keep fighting. And I don't think that the morally correct thing to do is to go away. But that is the one selfish choice that I allow myself, is to try and work towards leaving Israel and going to live somewhere else.
Ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va demander à Martin, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur ce sujet ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ?
Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? Je suis impressionné et je remercie le PJB et Amnesty de cette invitation et de toute l'organisation. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé au départ à faire ce travail ? Je suis allé pour la première fois en Palestine, en Israël, en 1993. À l'époque, j'étudiais la photo. J'étais venu voir des amis. J'avais un peu aucune idée du conflit, enfin, de la situation. Je ne savais pas vraiment bien où je mettais les pieds. Je venais visiter des amis qui écoutaient la même musique que moi, qui aimaient bien avoir de la couleur dans les cheveux, en gros. Mais par contre, par rapport à ce qui se passait, par rapport à la Palestine, j'avais aucune idée. Et donc je suis arrivé et l'un d'eux m'a dit « Mais tu étudies la photo ? Oui, est-ce que tu veux aller dans les territoires occupés ? Est-ce que tu veux aller à Gaza ? Est-ce que tu veux aller en Cisjordanie ?» Et du coup j'ai dit oui, et là j'ai réalisé, en voyant les camps de réfugiés à Gaza, le contraste qu'il pouvait y avoir entre le mode de vie dans ces camps de réfugiés qui était terrible, en fait. Il n'y avait pas tout à l'égout, c'était vraiment des bidonvilles au sens propre. Et les endroits où j'avais été invité, c'est-à-dire les beaux quartiers nord de Tel Aviv. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas pu y retourner avant 2008. Je suis retourné en 2008. Et là, le but était de documenter en fait ce qui se passait autour de la construction du mur, des luttes contre le mur. Avec une amie, on s'était dit, voilà, depuis la France, depuis Paris, on entendait beaucoup parler des villages palestiniens qui s'opposaient à la construction du mur de séparation avec la Cisjordanie, et pas beaucoup des gens qui protestaient contre ça du côté israélien. Il y avait une organisation à l'époque qui s'appelait Anarchist Against the Wall. Et donc, en fait, on est allé les voir et on a commencé à discuter. Et puis, bon, voilà, c'était une organisation qui participait aux manifestations dans les villages. de Cisjordanie et qui aussi faisait des actions clandestines de sabotage contre la construction du mur. Et donc, il était difficile de les prendre en photo directement. Mais en discutant avec eux, j'ai compris l'existence des refuseniques. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, il s'est passé un truc. C'est que Ahmed Moussa, âgé de 12 ans, a été abattu par l'armée israélienne dans un de ces villages où il y avait des protestations contre la construction du mur. Et donc, vraiment, ça a été une impulsion pour moi pour essayer de comprendre comment on pouvait assassiner des enfants sous prétexte de sécurité. Donc, pour essayer de mieux comprendre en fait la société israélienne, et j'ai choisi le prisme des refuseniques. Donc ça c'est en 2008 et le travail s'est prolongé de 2008 à 2016. On a sorti le premier livre en 2017.
Mais donc tu as parlé de refuseniques, ces dissidents israéliens. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire refuseniques, qui est concerné? Quels sont les profils de gens qu'on appelle refuseniques, et peut-être aussi ce que ça peut représenter en impact sociétal?
Alors, le mot refusnik vient du russe. Au départ, ce sont les gens, si j'ai bien compris, si je me trompe, j'espère que vous me corrigerez. Vient du russe. En fait, c'est les juifs que le système soviétique ne laissait pas sortir, ne laissait pas aller en Israël. Mais quand on regarde sur Wikipédia ce que veut dire le mot refusnik, il a évolué. Et maintenant, on peut, par exemple, si on refuse le numérique, si on refuse d'avoir un téléphone portable, eh ben, on peut être qualifié de refusnik. Les refusniks en Israël sont ceux donc qui refusent de faire l'armée, qui refusent de faire l'armée au départ, qui refusent totalement de faire l'armée et qui le disent haut et fort et qui le revendiquent. Au départ, c'est eux les refusniks. Qui à 18 ans refuse. Alors, dans mon premier livre, dans lequel il y a 46 témoignages et 46 portraits photographiques, il n'y a pas que des refuseniques au sens strict. Il y a aussi des gens qui n'ont pas fait l'armée, mais qui racontent leur histoire par rapport à ça dans leur vie. Voilà. Mais ça, c'est l'éditeur qui voulait absolument que ça s'appelle refusnique. Il trouvait ça percutant. Moi, j'ai dit, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'il y a dans le livre, mais ce n'est pas grave, ok, voilà.
Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu si ce sont tous des jeunes, oui, puisque ça se passe à 18 ans, mais sans doute pas que. Est-ce que c'est tous des laïcs, est-ce que c'est tous des Ashkénazes, des séfarades? Quels sont un peu les profils qu'on retrouve?
Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde ici, et je ne sais pas si tout le monde est au courant, on va peut-être rappeler la base, c'est-à-dire que le service militaire est obligatoire pour les hommes pendant 3 ans, voilà, et pour les femmes pendant 2 ans, et puis ensuite, ils font une réserve. Remarque, c'est peut-être un peu expliqué dans le film, en fait.
C'est un petit peu expliqué, mais oui. c'est bien qu'on voilà. rappelle. Donc, la réserve dure un mois.
La réserve dure un mois, mais là, par exemple, en ce moment, elle peut durer plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, c'est pour ça que je dis selon les besoins, c'est selon les besoins de l'armée. Si l'armée considère qu'il faut que tu fasses 3 mois de réserve, tu fais 3 mois de réserve. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des réservistes qui sont restés beaucoup plus longtemps à Gaza que 1 mois. Alors, il y a des gens qui refusent effectivement de faire leur service militaire et qui le crient haut et fort et qui se retrouvent en général en prison. Là, depuis le 7 octobre, la prison, c'est environ 6 mois. Mais 6 mois qui sont, on va le voir sans doute, on va en parler, qui sont répartis sur plus de temps. Et puis, il y a aussi, bien sûr, mais ça depuis très longtemps, et d'ailleurs, les gens qui refusent de faire l'armée à 18 ans, c'est aussi depuis très longtemps, il y a aussi les réservistes qui refusent de faire leur réserve. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, les premiers refuseniks, disons nombreux, qui refusaient de faire leur service, disons un espèce de refus choisi, ils voulaient bien faire leur service militaire, mais pas en Cisjordanie, ni à Gaza, ni par exemple pendant la guerre au Liban, ils ne voulaient pas le faire au Liban. Donc voilà, il y a en fait, on croit que c'est simple, mais en fait, ça recouvre en fait un éventail de possibilités assez large.
Oui, parce qu'il y a des refus politiques et puis il y a aussi des refus gris. Qu'est-ce que ça...
Oui, des refus gris qui peuvent être politiques. C'est-à-dire que, par exemple, Sophie, la troisième personne qu'on a vue dans le petit film, elle, voilà, c'est un montage, donc on n'entend pas tout ce qu'elle m'a raconté. D'ailleurs, tout est dans le livre. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle, elle a refusé, en fait, pour d'autres, elle a refusé de façon officielle, en le disant haut et fort, pour d'autres qui avaient fait un refus gris, c'est-à-dire qui avaient dit « j'ai pas le courage de me mettre en avant, j'ai pas le courage d'aller en prison, mais je vais me débrouiller en allant voir un psychologue pour ne pas faire le service militaire ». Donc ça c'est donc en fait c'est très difficile de comptabiliser le nombre de personnes qui s'opposent au système de l'armée parce que il y a un grand nombre de refus gris. Alors est-ce que ces refus sont liés à des véritables maladies mentales ou est-ce qu'il y a des personnes qui jouent la comédie pour ne pas avoir à faire le service et donc éviter de participer au génocide en ce moment par exemple.
Oui, donc c'est pas chiffré, parce qu'en fait, témoigner, c'est déjà résister.
Témoigner ?
C'est déjà résister, c'est s'exposer.
Ah oui, très clairement, les personnes qui témoignent dans les livres s'exposent. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont refusé, qui ont fait des refus gris, mais qui acceptent de témoigner. Donc, en particulier quand c'est des gens qui sont dans une situation de précarité au niveau financier, j'ai tout fait pour vraiment leur laisser jusqu'à la dernière minute de pouvoir refuser que leur nom apparaisse. J'avais fait à l'avance des photos de dos pour si jamais ils voulaient pas que leur visage apparaisse. Mais disons qu'il y a une partie importante des personnes que j'ai interviewées qui a été en prison. Et puis d'autres qui ont refusé depuis un certain nombre d'années, qui s'est connu, enfin, sachant qu'Israël c'est un tout petit pays, hein, il y a 10 millions d'habitants, donc en fait tout le monde se connaît assez rapidement. Et donc bon, bah, il y en a un certain nombre, tout le monde sait qu'ils ont refusé de faire l'armée quand ils étaient jeunes.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as rencontré les personnes qui se trouvent dans ton livre ? Est-ce que...
Alors... Donc j'ai travaillé dans un premier temps sur ce sujet, sur le long terme, puisque pour le premier livre, c'était entre 2008 et 2016. Et donc j'y suis allé une première fois en 2008, une deuxième fois en 2009. J'ai réinterviewé ceux que je pouvais à distance, parce que j'ai eu une autre vie où j'étais vivre en Amérique du Sud. Donc j'ai pas pu y retourner en 2014, mais je les ai interrogés à distance pendant l'opération Plomb durci, et j'y suis retourné en 2015-2016. Donc là, les gens, en fait, c'est un petit peu par capillarité, c'est-à-dire que j'en ai connu quelques-uns dans le milieu des personnes qui allaient aux manifestations contre la construction du mur en 2008-2009, et puis... j'ai parlé à quelqu'un dans un bus qui m'a dit « Ah, mais moi, j'en connais une. » Voilà. Et puis, en fait, après, voilà, c'est par capillarité. Je veux dire que, petit à petit, j'en ai rencontré vraiment un nombre important. Et puis, en 2016-2017, j'ai arrêté de travailler sur ce sujet parce qu'il y avait ce livre qui était un aboutissement. Et j'ai continué à travailler à Shuafat, qui est un quartier, qui est à la fois un quartier et un camp de réfugiés à Jérusalem, qui se trouve à Jérusalem Est et de l'autre côté du mur. J'y suis beaucoup allé. Voilà, j'ai pas réussi à faire un livre, mais voilà, j'ai travaillé là-bas. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un autre travail qui n'a rien à voir en Grèce, à Thessalonique, et en 2023, j'ai terminé ce travail et je me suis dit ce serait quand même chouette que et donc c'est là où je me permets de te corriger, Sharon. Il y a aussi des témoignages et il y en a pas mal dans le dernier bouquin qui sont faits en mai 2023, donc pas longtemps avant le 7 octobre. Donc c'est avant et après le 7 octobre. Il y a les témoignages qui sont faits en mai 2023. J'ai réinterviewé les gens en décembre 2023 et ensuite j'y suis retourné en juillet 2024. Et donc Là, le but au départ, donc en mai 2023, avant le 7 octobre, le but finalement, c'était d'avoir des nouveaux témoignages pour pouvoir aller voir une maison d'édition anglo-saxonne et essayer de faire en sorte que ce travail soit publié en anglais, pour qu'il soit plus accessible. Et puis, il y a eu le 7 octobre qui a été une déflagration. Et il a fallu voilà, continuer à travailler dans une autre optique.
Je vais un peu me tourner vers toi aussi, Maya, parce que, évidemment, tu as une bonne connaissance de la société civile israélienne. Tu as rencontré beaucoup de réfusniks aussi dans ta vie. Et donc, un peu comme on en parlait juste avant, Sharon l'a dit, l'armée en Israël, c'est vraiment un socle de la société. Donc, est-ce que quand on refuse de servir, est-ce qu'on, c'est déjà un moment où on dit non à un modèle de société, en fait?
Vous m'entendez? Okay, excusez-moi pour mon français, c'est pas ma langue maternelle. Oui, moi je veux dire que pour moi, par exemple, moi je n'ai pas fait de l'armée, mais refuser c'était tout le temps quelque chose que je, comme il y avait une fille qui a dit, moi je suis venue d'une famille qui c'était tout le temps une possibilité, mes deux parents étaient membres de l'organisation Matzpen, c'est une organisation anti-sioniste qui existait de l'année 60. Et alors je sais toujours, je savais que c'est une possibilité, mais je peux dire que jusqu'à maintenant, je vois moi-même comme un réfugié dans la vie, parce que même oui, de ne pas laisser les choses juste passer, de ne pas se taire, je n'aime pas. Et voilà. Et là-bas, dans les sociétés en Israël, il y a des conséquences beaucoup plus grand que par ailleurs. Ouais.
Ça, justement, Martin, on en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu. C'est quoi vraiment les conséquences très, très pratiques de refuser quand on est israélien, quand on est israélienne, comme ça, et qu'on sort finalement de ce modèle de société en termes de sociabilisation? Sharon l'a dit, ces personnes sont ostracisées, elles sont mises un peu de côté. Donc, quel impact tu as vu un peu chez ces gens que tu as interviewés?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure, c'est le plus courant, c'est souvent le tien, c'est-à-dire que c'est des gens qui refusent parce qu'ils ont déjà des exemples dans leur famille de gens qui ont refusé avant eux. Et dans ce cas-là, ça se passe bien avec la famille, même si des fois il y a quand même des tensions, parce que les parents ont toujours peur de voir leur enfant partir à l'âge de 18 ans. C'est très jeune quand même, en prison, même si c'est la prison militaire qui est une prison un petit peu plus soft, un peu plus carrément plus soft que la prison civile, disons. Même si, voilà, donc c'est quand même un petit peu, il y a des peurs, donc il y a des tensions, même si politiquement on est d'accord. J'ai remarqué sur les 60 refusniks que j'ai interviewés, c'est que finalement, Israël, étant ce qu'il est culturellement, enfin les juifs israéliens ayant une espèce de force, disons, liée à la famille très forte, même si politiquement il y a des désaccords, en général les parents soutiennent leur enfant. Donc ça c'est une particularité assez surprenante pour un franco-uruguayen comme moi. Même si mon côté sud-américain peut comprendre ce côté un peu familial très très fort. Sinon, vraiment, je pense que le plus dur, c'est l'ostracisme par rapport à sa propre génération. C'est-à-dire que quand on va au lycée avec des gens, et puis en fait, ben, toi tu n'es pas allé à l'armée, donc ça veut dire qu'il y a des tas de choses que tu ne vas pas partager avec tes amis du lycée. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Après, il y a des cas particuliers. En ce moment, c'est encore plus difficile qu'avant. Par exemple, donc il y en a l'un d'entre eux qui s'appelle Yuval, qui à la fin de l'année scolaire, il est monté sur une estrade. Il y avait une fête pour la fin de l'année au lycée, et il a dit non au génocide. Il s'est fait taper dessus et il a quand même réussi à partir. les adultes qui étaient là, qui organisaient la fête, ont envoyé un mail à sa mère lui disant que, en fait, elle avait un fils qui avait un mauvais caractère. Enfin, voilà, pour dire que voilà, c'est particulièrement, il y a un ostracisme vraiment global de la société en ce moment depuis le 7 octobre plus qu'avant.
Oui, donc j'entends que ça peut être extrêmement violent, en fait, même là tu parles vraiment d'une histoire d'agression physique. On imagine un peu, là je vais me tourner un peu vers toi Karine aussi, qu'il y a dans tous les conflits, il y a des gens qui refusent de servir, de s'engager dans l'armée, et on a beaucoup parlé du droit à l'objection de conscience, et dans le fil d'Amnesty, il n'y a pas si longtemps, on parlait du devoir même d'objection. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous guider dans ces deux notions-là pour éclairer cette discussion?
Je veux bien, je me posais juste la question, si toi tu voulais, enfin, si tu peux me permettre, rajouter un élément sur l'ostracisme, enfin, puisque tu as été refusnik, avant que moi j'aille sur les droits humains et tout, je ne sais pas si toi tu voulais réagir à ce qu'a dit Martin.
Oui, je voulais juste dire que ça commence déjà dans même les maternelles, dans les écoles, parce que chaque année, il y a des, pour exemple, les jours de mémoration, les choses qui te rappellent les narratives que l'armée elle existe tout le temps dans l'histoire, quand les cours d'histoire et tout. Donc déjà, c'est un âge assez jeune pour résister. Et ça fait, ça dure toute ta vie, donc ça fait plus en plus difficile de...
ça ne s'arrête pas à l'école. Il y a en fin de scolarité, on en avait parlé, un examen psychométrique qui détermine en fait ce qu'on va pouvoir occuper comme poste à l'armée et qui après est totalement déterminant pour les carrières professionnelles des Israéliens. Et donc quand on refuse de faire l'armée, peut-être que tu peux... Bah, est-ce qu'on a des possibilités, des perspectives de trouver un travail après? Est-ce que ça complique? Est-ce qu'on peut exister après en tant que refusnik? Comment ça se passe?
Et il y a des postes qu'on ne peut pas faire, comme des choses plus de le pays, quoi.
De sécurité.
Oui, sécurité et aussi, oui, politique, et donner des services. Et aussi, il y a, par exemple, pour les célèbres, par exemple, c'est quelque chose de vraiment un tache noire. Ça veut dire, ça va
même ça, un chanteur, va chanteuse. Toute la vie, une personne qui n'a pas fait l'armée.
Oui, oui, ça va être très... C'est quelque chose qui pèse très, très lourd dans toute leur carrière, quoi. Dans toute la...
Tu veux que je réponde du coup à la question? Je voulais la laisser parce que je me dis, si tu ne peux pas raconter aussi ça, ton point de vue, c'est pas... Donc peut-être juste... Bah, nous, d'abord, on est juste très contents de faire cette soirée avec vous. Et on est aussi contents... Alors, ce n'est pas nous, c'est les camarades français, la section Amnesty International de France qui a marrainé, en fait, le livre de Martin. Mais donc peut-être sur l'objection de conscience en tant que telle. En fait, l'objection de conscience, c'est effectivement un droit essentiel hein, qui déroule, en fait... de la liberté d'opinion, de religion et la liberté de conscience. Alors là, on parle de l'armée, mais pour Amnesty International, l'objection de conscience, ça va aussi se jouer sur d'autres endroits, hein, l'euthanasie, l'avortement, donc reconnaître aussi qu'un médecin peut faire une objection de conscience, même si, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, même si ce qui est important, c'est qu'il renvoie à quelqu'un d'autre qui sera d'accord de pratiquer une interruption volontaire de grossesse et donc permettre à la femme d'avoir accès à un avortement sûr et légal. Et donc, pour Amnesty, l'objection de conscience, c'est un droit essentiel. Et il y a des cas dans d'autres pays, mais je vais revenir après à Israël, à la Palestine. Il y a des cas comme la Thaïlande, par exemple. Donc nous, on soutient, par exemple, un prisonnier d'opinion, qui est une personne qui est en prison, qui a pris 3 ans, parce qu'il est objecteur de conscience. Donc en Thaïlande, c'est une loterie, en fait. Vous tirez une carte rouge, une carte noire. Et le problème, c'est qu'en Thaïlande, quand vous êtes enrôlé dans l'armée, vous allez avoir des brimades assez graves. Enfin, il y a une longue liste chez nous de violations quand vous êtes enrôlé dans l'armée. Et donc, par exemple, on a quelqu'un qui est en tôle depuis 3 ans maintenant en Thaïlande pour avoir refusé de faire l'armée. Et donc, En fait, Amnesty a toujours décidé que la liberté de conscience, et dans le livre, c'est très bien expliqué, je trouve, en fait, comment les gens, alors des histoires de vie très différentes, même dans le livre, hein, des gens qui, peut-être comme toi, ont baigné dans une famille ou dans un milieu dans lequel on avait une critique de l'occupation, de l'apartheid, enfin, on reviendra maintenant du génocide, et puis des histoires de vie assez différentes, en fait. Il y a des gens qui ont... Enfin, je trouve intéressant dans le livre de voir des histoires de vie très différentes, mais ce qu'on voit toujours à chaque fois, c'est la question de la conscience à un moment, de considérer que, par rapport à ses propres valeurs, c'est pas possible de faire l'armée, ou c'est pas possible, enfin, ça c'est peut-être les refus gris, de se retrouver à être réserviste. Et donc ça c'est hyper clair que l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle inclut le fait de pouvoir refuser de faire un acte qui nous est demandé par un État, dans ce cas-ci, de refuser la circonscription militaire. Et ce que dit en fait le droit international sur le sujet, c'est de dire vous devez offrir aux personnes la capacité de faire un service civil, enfin de faire une alternative au service militaire, et vous ne pouvez pas mettre en prison des gens parce qu'ils refusent de faire le service militaire. Donc tu l'as expliqué, et en plus évidemment en Israël on voit que ça bouge selon les périodes, et donc évidemment selon les périodes on va être plus dur parce qu'on veut envoyer un message global à l'ensemble de la société. Et l'autre élément, c'est qu'on se dit on est jugé par un tribunal militaire en Israël, et donc on est jugé par quelque part celles et ceux qui veulent faire tout pour que vous fassiez le service militaire, et qu'il surtout il n'y ait pas d'épidémie de refusnik. Enfin, je pense que, de toute façon on y reviendra, tu l'as bien dit sur l'armée, l'importance de l'armée. Donc voilà, c'est là où Amnesty a soutenu des refusniks qui étaient en prison, des refusniks israéliens, d'autres gens qui sont des objecteurs dans d'autres pays pour d'autres raisons, et qu'évidemment, c'est cette question essentielle de la liberté de conscience à un moment, et dans ce cas-ci, de refuser de faire un acte qui est prescrit par l'État. Et ce qui est important aussi dans la conception du droit international, c'est que ça vaut en temps de paix, mais ça vaut en temps de guerre. Bon, évidemment, le débat, c'est est-ce qu'Israël n'est pas constamment en guerre, mais donc aussi, évidemment, là maintenant, ça compte encore plus de pouvoir défendre l'idée que c'est vraiment un droit essentiel et que ça reprend un droit essentiel qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18. Bon, je pense que Netanyahou s'en fout de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, voilà, c'est ça qui est derrière, et c'est pour ça que, du coup, tu veux avoir Amnesty International qui va se soutenir l'idée que des gens puissent faire l'objection de conscience et qu'ils devraient avoir une alternative, qu'ils ne devraient pas aller en prison, évidemment. Et alors, sur l'ostracisme, on y reviendra, évidemment, parce que ça, c'est... Là, Amnesty va moins se positionner... Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, en fait. Fin, mais très fort, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la peur de la prison. L'ostracisme, les impacts que ça a sur la carrière, ce que ça veut dire humainement, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux, évidemment, qui sont évidemment très difficiles dans une société qui pour laquelle l'armée est devenue le ciment national, une société très complexe et très variée. Enfin, tu le raconteras bien mieux que moi.
Merci. Martin, je vois que tu voulais réagir, donc je vais te laisser la parole. Mais peut-être que toi, tu as rencontré finalement beaucoup de personnes qui ont refusé. Et on sait aussi qu'il y en a parfois qui sont exemptées. Et donc peut-être que dans ta réponse aussi à ce que Karine disait, tu peux nous dire... Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour savoir si oui ou non on va être exempté? Est-ce qu'il y a une solidarité aussi entre Israéliens et Israéliennes qui refusent pour se préparer à cette épreuve, justement devant un tribunal militaire?
Alors, pour compléter ce qu'a dit Karine, en fait, l'État israélien s'est doté d'une commission pour l'objection de conscience, qui est une commission... dont les membres sont, enfin c'est opaque. Donc en fait ils ont, pour contrer les détracteurs comme Amnesty International, ils ont créé cette commission il y a peut-être une trentaine d'années, je ne sais pas exactement, mais qui est une commission qui ne correspond absolument pas du tout aux critères justement du droit international. C'est-à-dire que c'est une commission où il y a une majorité de militaires, on ne sait jamais quels vont être ces membres, quels vont être leurs rôles. Et il est très très difficile pour quelqu'un qui veut être objecteur de conscience de passer devant cette commission et d'obtenir le statut. On l'obtient plus facilement quand on est une femme. On l'obtient certainement pas quand on a un discours anticolonial ou anti-apartheid. Dès qu'on utilise le terme palestinien dans cette commission, on est sûr de pas avoir le statut d'objecteur de conscience. Donc il faut développer un discours en disant « oui, je suis vegan, je ne mange pas de viande depuis l'âge de 8 ans ». Il faut venir avec un témoin, donc ça peut être... Ça peut être sa maman, et la maman dit oui, quand il avait 3 ans et demi, il pleurait à chaque fois qu'on coupait une fleur, enfin ce genre de choses. Et là, peut-être ça peut marcher, mais ils sont quand même affreux, parce que donc il y a une des refusniques qui est dans le dernier livre, qui raconte, en fait, on met ces adolescents, parce que c'est des adolescents, devant des espèces de dilemmes absolument absurdes, du genre... Qu'est-ce que vous feriez si vous êtes avec une amie et il y a quelqu'un qui agresse votre amie? Si vous avez une arme, vous le tuez. Enfin voilà, ce genre de. Alors la personne en question qui témoigne dans le livre répond ben, j'ai commis l'erreur de dire j'appellerai la police. Ah, mais alors. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire le service militaire dans la police. Donc, ah, mais alors pourquoi vous refusez de faire le service militaire dans la police ? Et on ne les laisse pas parler, on leur coupe la parole tout le temps. Enfin, voilà, c'est hyper agressif. Et donc, il n'y a que vraiment des gens qui arrivent à parler à l'oral de façon parfaite et être très sûrs d'eux, qui arrivent à s'affronter et à gagner face à cette commission. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question.
Pardon. Oui, non, tout à fait.
Souvent, c'est accompagné par un avocat, cette procédure. C'est aussi, ça ouvre cette procédure pour les gens qui ont plus d'accès. Donc, c'est souvent, oui, il y a un avocat qui suit et qui écrit tous les papiers, tout ça, pour donner les...
Donc, est-ce qu'il y a des associations, par exemple, qui aident à préparer cette espèce de grand oral où il faut bien parler, il faut savoir qu'est-ce qui va être bien perçu ou pas, ou est-ce que les gens sont un peu livrés à eux-mêmes dans cette procédure ?
Il y a les deux cas, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, donc il y en a une, celle qui est en couverture du premier livre, elle est végétarienne depuis l'âge de 14 ans. Donc, au moment où s'est posée la question de savoir si elle allait faire l'armée ou pas, elle disait « Moi, je suis pacifiste, j'ai pas envie de tuer des gens. » Donc, elle est allée devant cette commission. Elle s'est retrouvée avoir un discours pas assez structuré, sans avocat. Donc, du coup, elle a été en prison. Et c'est là qu'elle a été contactée par une avocate... qui s'occupe d'aider les refuseniques. Et donc actuellement il y a une organisation qui existe depuis 2015 qui s'appelle Mesarvot, qui veut dire nous refusons en hébreu,
en féminin,
nous refusons au féminin, mais voilà, mais ça n'existe pas en français, mais vous avez compris, elle refuse, mais c'est nous, voilà.
La langue française.
Ouais. Et donc il y a Mesarvot, mais il y a aussi une autre organisation qui est plus ancienne, qui s'appelle New Profile, qui est une organisation qui est pour la démilitarisation du pays, d'Israël. Et il y a aussi une autre organisation encore plus ancienne qui date de la guerre de 82, du Liban, qui s'appelle Yesh Gavul, mais là, je ne sais pas si je prononce bien.
Yesh Gavul.
Yesh Gavul, voilà. Et donc là, c'est voilà. Donc il y a plusieurs générations en fait de gens qui ont refusé, qui à chaque fois finalement trouvent un mode d'organisation qui va les soutenir. Et bien Yesh Gvoul est encore actif aujourd'hui et aide les gens.
Yesh Gvoul, c'est plus pour les réservistes, mais Mesarvot, c'est plus des refuges politiques. Okay. Et l'autre, c'était...
New Profile.
Profil Khadash, en hébreu, c'est plus, oui, démilitarisation de la société, et plus féministe.
Ça va être plus... comment ? Alors, c'est moins politique au sens moins décolonial, même s'il y a des gens dedans qui sont aussi Donc l'organisation va aider à trouver un processus pour ne pas faire l'armée, mais que ce soit par l'objection de conscience pour trouver un avocat ou par trouver un psychologue, etc.
Mais justement, là, on est en train de parler de stratégie, de est-ce que les gens, finalement, développent collectivement des stratégies pour éviter d'aller à l'armée. Et je me demande si ton livre a été traduit en hébreu et si tu as pu, peut-être, je ne sais pas quand, mais est-ce que tu es allé là-bas parler de ton livre ?
Alors, je ne suis pas allé là-bas parler de mon livre comme dans une salle ici, pas du tout. Le livre, je l'ai envoyé par la poste, parce que j'ai toujours peur d'aller avec le livre dans mes bagages quand j'y vais. Bon. C'est un peu de la paranoïa, je ne sais pas. Mais bref, j'ai jamais... Mais donc, mon livre est là-bas, donc il y a des gens qui, quand ils me voient, ils m'en parlent. Mais en général, c'est soit des gens qui sont dans le livre ou des gens proches. Donc, j'ai pas eu de réaction de personnes qui ne sont pas politisées, disons. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est parce que on se pose souvent la question de savoir si c'est. On me dit souvent, mais c'est minoritaire. Je dis oui, c'est minoritaire, mais on est souvent minoritaire dans la vie. En France aussi, en Belgique aussi. Et l'autre chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que même si c'est minoritaire, il faut voir que, par exemple, en 1982, pendant la guerre au Liban, l'armée israélienne va se retirer du Liban beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, parce qu'il y a un nombre de refus hyper important. Et effectivement, l'armée n'a pas envie de faire de ces refus une épidémie, et la stratégie de l'armée va tout le temps changer. La stratégie de l'armée, ça va être il n'y a pas de règles. On ne sait jamais à l'avance combien de temps on va passer en prison, par exemple, quand on a refusé officiellement. Donc, ce que je voulais dire avec la guerre du Liban, et ce qui s'est renouvelé aussi en 2023 pendant la réforme du système judiciaire qu'a voulu faire Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, c'est qu'il y a eu ces deux moments historiques, en fait, où les refus des réservistes ont influencé grandement la politique israélienne. C'est-à-dire que, en fait, l'armée israélienne s'est retirée du Liban plus tôt que prévu, et en 2023, finalement, la réforme n'a pas eu lieu parce qu'il y a des réservistes qui ont dit si ça continue, nous, on n'y va pas. Et alors, pas forcément pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour des raisons politiques, disons, pour soutenir les Palestiniens, mais de fait, il y a eu un retrait du projet, quoi.
Je me suis demandé si, quand tu es retourné après le 7 octobre, est-ce que dans les personnes que tu avais pu interviewer avant, certaines personnes ont refusé, ou est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as pu observer des changements, étant donné la situation et que la pression doit être encore plus forte ?
Alors, pas du tout. Je m'y attendais. C'était un peu quand j'ai interviewé les gens en décembre 2023. C'est la première question que je posais, parce que depuis Paris, en tout cas, j'entendais beaucoup parler de cette fameuse gueule de bois de la gauche israélienne qui, tout d'un coup, était devenue raciste. Et aucun des 15 personnes que j'avais interviewées avait changé. Au contraire, ce qu'ils disaient, c'était on le savait qu'il allait se passer. Nous, ça fait des années et des années qu'on dit que c'est pas possible d'enfermer 2 millions de personnes dans une prison à ciel ouvert et en espérant qu'il se passera rien. Forcément, il va y avoir un drame à un moment donné. Donc, paradoxalement, les gens étaient encore plus convaincus. Enfin, paradoxalement, c'est une façon de parler. Je pense que c'est logique, même, en fait. Ils étaient encore plus convaincus de leur pensée que avant.
Et est-ce que tu les as tous retrouvés, ou on parle d'un certain nombre, 100 000, j'ai entendu plein de chiffres, j'ose pas dire un chiffre précis, mais de beaucoup d'exils, et donc est-ce que certaines personnes que tu as interviewées se sont exilées et qu'est-ce qu'on peut en dire? On dit que quand tous les dégoûtés sont partis, il ne reste plus que les dégoûtants.
Effectivement, il reste pas mal de dégoûtants en Israël. Mais oui, alors oui, d'ailleurs, y en a un que j'ai interviewé en 2008, avant qu'il aille en prison, en 2009, quand il est sorti de prison, et en 2024 à Paris, parce qu'il était parti. Il y en a une autre que j'ai interviewée en 2016, en 2016 et en 2024, et qui vit maintenant près de Marseille. Donc effectivement, il y en a qui sont partis parmi ceux que j'ai rencontrés. Mais il y a aussi des gens que j'ai interviewés qui sont allés à Gaza en tant que soldats, en tant que réservistes, qui expliquent, il y en a deux. Ça a été plus difficile pour moi de les interviewer parce qu'ils avaient vraiment un truc nationaliste qui... Voilà, moi, c'est pas tellement mon truc. Et donc eux, ils y sont allés et puis ensuite, ils ont refusé d'y retourner.
Alors peut-être poser la question dans l'autre sens, parce que Maya est israélienne et moi j'ai rencontré Maya parce qu'elle est assez active ici à Bruxelles avec un groupe d'Israéliens qui depuis 2 mois manifeste à la Bourse contre le génocide. Et parmi eux, il y a énormément d'Israéliens exilés. Est-ce que Maya, tu peux en dire un mot? Est-ce que toi, tu as pu observer de plus en plus d'Israéliens qui quittent leur pays et de plus en plus de réservistes qui ne font pas leur réserve?
Et bien sûr, oui. Et, en fait, au début, après le 7 octobre, c'était quelque chose qu'on ne peut pas parler. Moi, comme les gens que toi tu as parlé, j'ai tout de suite j'ai eu l'impression, oui, que ça va jamais, ça ne peut pas jamais changer de l'intérieur d'Israël, de ce pays. Il faut demander les sanctions, et jusqu'à maintenant, je suis très active de ça, demander les sanctions, demander l'embargo. Choses comme ça, parce que je sais très bien que c'est très difficile de changer ça. Mais je pense que ça a pris un an jusqu'à ce que je pourrais parler, poster les choses là-bas, et que ce n'était pas vraiment... Il y avait quelque chose que c'était comme pousser sur un wound, comme on dit. Blessure. Et c'était pas possible de même parler, quoi. Et depuis, oui, je pense que tous les refus gris que vous parlez, ça existe énormément. Je sais que, pour exemple, l'avocate de Meservot, elle a dit, elle vient de visiter les réfusniks qui sont dans les prisons, que ça, c'est vraiment minorité. Mais elle a dit qu'il n'y a pas de place dans les prisons. C'est tellement... Ils continuaient... Parce que juste les gens, ils ne viennent pas. Et ça, c'est vraiment... On ne peut pas. Ça, c'est directement ces prisons. Si on n'arrive pas juste... On néglige les... Et donc, voilà, il y a beaucoup... Il n'y a pas de place. Et on parle beaucoup. On parle beaucoup des post-traumes, des soldats, il y a beaucoup
syndrome post-traumatique.
Oui, il y a des cas de suicide, mais on peut pas exactement le numéro, mais on sait très bien que c'est grandi, et aussi on sait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Israël. On sait pas vraiment le numéro, mais on sait que c'est beaucoup.
Ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai lu dans un magazine en ligne qui s'appelle 972. C'est l'indicatif d'Israël, le téléphone. Donc c'est +972.org, je crois. Donc il y a un article qui dit qu'il y aurait 100 000 réservistes qui ne répondraient pas à l'appel. Donc c'est des chiffres très... En fait, comme tu as dit, c'est pas vérifiable. eux, ils ont les chiffres parce que ils ont enquêté et ils ont eu des chiffres d'officiers de l'armée qui leur disent en off, qui leur disent, disons, de façon officieuse, ce chiffre-là, ça fait quand même 25%, entre 20 et 25% de tous les réservistes qui ne veulent pas retourner. Après, il y en a certains qui le disent, disons, haut et fort, comme les deux qui sont dans le livre. Mais oui, en fait, malheureusement, ce n'est pas parce que j'ai l'impression que la majorité d'entre eux n'ont pas envie d'y retourner, parce que, pas pour des raisons, pas contre le génocide, mais plutôt pour parce qu'ils n'ont pas envie d'être traumatisés, enfin voilà.
Et ça, c'est aussi les réservistes qui viennent, et ils ne refusent pas tous les services, mais ils viennent les jours de leur appel pour, et ils disent, ok, moi, je refuse pour telle et telle raison. Eux, ils sont laissés, ils peuvent partir sans prison, parce que c'est très ponctuel. C'est pas, ça arrive beaucoup.
Ce que disait l'article de 972, c'est que si c'est 100 000 personnes qui ne font pas leur réserve, c'est au niveau des chiffres, c'est la première fois que ça arrive. Après, pourquoi est-ce que ça a vraiment influencé l'histoire du pays en 1982? C'est parce qu'il y a des unités d'élite, les pilotes, des gens comme ça, qui ont refusé. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de refus officiel des unités d'élite, à part certaines du renseignement, comme l'unité 882, je crois que c'est. Voilà, il y a un certain nombre de gens chez eux qui ont refusé.
Alors, on a encore beaucoup de questions. On a préparé plein de petites questions avec Sharon, mais je pense qu'on va ouvrir un peu le débat avec vous. Je me permets juste de mettre un tout petit cadre pour que ça se déroule bien. Donc, essayez si possible d'avoir des questions assez courtes qui sont adressées à l'un ou l'une des intervenants. On va prendre quelques questions à la fois. L'idée, vraiment, c'est plutôt de partager la parole plutôt que de la monopoliser. Donc, voilà, Chiara pourra faire tourner le micro. En ligne aussi, vous pouvez réagir via le chat. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Donc juste, voilà, n'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête. Si vous avez du mal à formuler une question, vous pouvez aussi simplement réagir à quelque chose qui vous a interpellé.